I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour un numéro un peu spécial et bien sûr toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Un Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, un peu où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité discret, un peu à l'image de son club, qui pourtant truste le haut de l'affiche.
Oui, comme beaucoup le savent maintenant, j'ai eu la malchance de ne pas jouer une seule finale de mon club au sein du Stade français, mais peu le savent aussi que ça n'a pas été 6 finales, mais bien 7 que j'ai loupées dans ma carrière. 4 finales de championnat, 2 finales de Coupe d'Europe et une finale de Pro D2 avec le Racing le 21 juin 2008. Ce jour-là, en costard, dans les tribunes, comme à mon habitude, j'ai regardé cette armada francilienne bleue et blanche avec une flopée de grands noms. Bibi Oradou, Michel Diodet, Augustine Pichotte, Thomas Lombard, Jonathan Wigneski, Jeff Dubois, Cyril Ibobo, Lotichero et Festuccia. On était armés pour jouer le top 14 et pourtant, c'est bel et bien Mont-de-Marsan qui a atteint le Saint Graal ce jour-là. Et là, il y avait un groupe d'un côté et une équipe de l'autre, une équipe de potes, avec les Julien Tasté, les Benia Tarayet et sûrement le plus connu à l'époque, le fameux Laurent Travigny dit La Trave. 13 ans plus tard, et même si on n'est qu'à la moitié de la saison, je revois dans le Mont-de-Marsan de Rémi Thalès cet état d'esprit, ce côté désinvolte d'une équipe qui ose tout, qui s'amuse, qui joue et surtout qui continue à représenter ce truc à la David contre Goliath, coûte que coûte. C'est humain, c'est accessible, ça sent la tradition, le terroir avec une touche de modernité calée entre la Casa del Papel et les Peaky Blinders. Le mec est quand même arrivé en canasson au club suivi de son équipe pour le dernier match du bloc avant les fêtes. Il faut avoir l'audace quand même et les couilles d'arriver déguisé, c'est magique. Moi, j'ai trouvé ça classe. Rémi Thalès et Julien Tasté, deux joueurs emblématiques du club, en sont les entraîneurs aujourd'hui. Même si je dois toujours aller déguster avec Julien quelques liqueurs d'Armagnac au domaine Marquesto, j'ai pas oublié Julien, je connais moins Rémi Thalès et j'avais envie d'aller gratter un peu parce que l'homme m'intrigue à vrai dire. Rémi a été formé dans ce club mythique et après une énorme carrière qu'il a fait voyager de La Rochelle à Castres en passant par le Racing, avec à la clé une vingtaine de sélections en équipe de France, 24 en tout, et surtout de Brennus, il décide de finir sa carrière dans son club formateur après 18 ans de bons et loyaux services. Personnellement, j'ai suivi en tant qu'amateur du rugby la carrière de Rémi, et ben chapeau parce que pour un petit gars des Landes qui est devenu l'un des leaders du titre de 2013 avec Castres face à l'armada toulonnaise de l'époque, se faire une Coupe du Monde en 2015, aller soulever le bouclier au Camp Nou en 2016 avec le Racing et revenir au Bercail après ce sacré voyage, force est de constater que ça force l'admiration. Heureux donc de pouvoir connaître enfin l'homme derrière le maillot et maintenant derrière la casquette, la fameuse casquette d'entraîneur d'un Mont-de-Marsan qui survole la Pro D2. Bienvenue Rémi Thalès dans Poulain Raffut. Salut Rémi.
Ben, salut à vous, merci pour l'accueil et merci pour la présentation. J'espère que cool. Tout le monde va bien.
Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet puisque Raph en a parlé dans son préambule. Vous avez un point commun tous les deux. Alors, vous n'avez pas joué, mais vous avez perdu tous les deux une finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça fait, messieurs? Même si Raph ne les a pas joués, toi, tu les as joués, Rémi.
Ça fait que ça manque à la fin de la carrière. C'est quelque chose qui manque. C'est quand même la chance d'avoir participé, d'avoir vécu ces moments forts, mais autant la première contre les Saracens en 2016, il n'y avait pas eu photo, autant celle en 2018 contre le Leinster, où je crois qu'on mène tout le match et on perd le match dans les 5 dernières minutes. Ça fait une énorme frustration. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'aura manqué dans la carrière, mais bon, voilà, ça fait partie des souvenirs et de la construction du joueur que j'ai été.
Oh, moi, tu les as joués.
Ouais, moi, j'y ai participé. Celle de 2018, elle est quand même forte parce que j'étais 24e. Ouais. Après, c'est Dan Carter qui se blesse à la veille du match, à la mise en place. Et après, donc je me retrouve remplaçant. Et après, pas de Lambi qui se fait les croisés
au bout de 3 minutes.
Donc je t'avoue que j'avais eu un ascenseur émotionnel pas mal ce jour-là.
Raph, il ne l'a pas eu, lui.
Non, si, ascenseur émotionnel, parce que c'était l'année en fait, où j'avais un peu cartonné au sein du Stade français. Malheureusement, à Béziers, voilà, premier quart d'heure, j'ai une couille qui explose en fait, sur le terrain. Et il s'avère que voilà, le championnat continue et la Coupe d'Europe avait lieu 3 semaines plus tard, bordel, au Parc des Princes avec les Franck Combat, les Domi, les Thomas Lombard. Et j'étais normalement titulaire, je devais être titulaire au Parc des Princes. Et on perd contre Leicester cette finale 34-30. Et je termine donc ma carrière en 2005 avec la finale perdue contre Biarritz en championnat et surtout en Coupe d'Europe à Édimbourg contre Toulouse où je m'étais pété le mollet en fait. L'histoire de ma vie, hein. Je m'étais pété le mollet à l'échauffement contre Brive et j'ai quand même joué le match pour prouver à Galtier que je pouvais être titulaire pour la finale ou au moins remplaçant. Le groupe qui gardait contre Biarritz en demi-finale de Coupe d'Europe, quand Domi marque cet essai magnifique au milieu du Parc des Princes, dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu, je devais être dans le groupe et pour finir, pété. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs qui restent quand même gravés malgré les défaites. Et quand une carrière s'arrête, comme tu l'as dit Rémi, c'est toujours ces moments-là qui manquent. Quoi. Quand l'adrénaline arrive sur ces phases finales, même si tu ne joues pas, tu es en costard, mais tu as participé. Voilà, le gâteau est bon, mais là, ça avait un petit goût un peu dégueulasse du fait de ne pas participer et d'avoir perdu en plus. Donc voilà.
On va parler, Rémi, surtout de ta carrière d'entraîneur hein, et des exploits de Mont-de-Marsan. Mais d'abord, encore un petit retour en arrière. Tu fais partie de ces joueurs qui ont arrêté sans pouvoir jouer le fameux dernier match devant la famille, devant les amis. Hein. On le rappelle, tu as mis fin à ta carrière de joueur, c'était au printemps 2020. Donc, le Covid était passé par là. Donc, clap de fin sur la saison de 2019-2020. Est-ce qu'il y a des regrets de ne pas avoir pu vivre et partager ces derniers instants de joueur sur un terrain?
Forcément. C'est vrai qu'on m'avait toujours dit que la fin, on ne la choisit pas. Alors, celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai terminé avec Juju Tastet et Arnaud Mignardi. On a terminé tous les trois au mois de mars à un match à Rouen. C'est vrai que je n'aurais jamais imaginé finir ma carrière là-bas et au mois de mars. Alors, heureusement, on a terminé sur une victoire. Donc, au moins, on est parti avec le sourire. Mais c'est vrai que voilà, finir sur un dernier match avec toute la famille, tous les amis qui viennent, où tu t'y prépares. Je pense que j'aurais aimé vivre ça, pardon. Après, au moins, voilà, j'ai jamais pensé, je me suis jamais dit, c'est mon dernier entraînement, c'est mon dernier moment, mon dernier vestiaire. Donc voilà, donc partager entre le fait d'avoir préféré vivre un dernier moment avec tout le monde et l'autre où au moins ça s'est arrêté brutalement et j'ai pas décidé de ma fin.
C'est paradoxal parce que c'est vrai qu'on en fait des caisses sur ces joueurs justement qui annoncent la fin de leur carrière avec ces hommages qui sont souvent rendus sur les derniers matchs. Tous les deux, vous avez aussi ce point commun de ne pas vraiment avoir décidé de la fin de votre carrière finalement.
Avec Raphaël ?
Ouais.
Ouais, c'est vrai que tu pars un peu dans une espèce d'anonymat, mais voilà, au moins c'est brutal. Alors après, vu que je devais faire un an de plus, à la base, je devais prolonger ma carrière donc la saison dernière. Sauf que pendant la fin du confinement, on a eu la proposition avec Julien de basculer dans l'entraînement. Donc encore une fois, en fait, quand j'ai terminé mon dernier match à Rouen, je pensais refaire un an. Et voilà, il y a une autre opportunité qui est arrivée. Et voilà, après 48 heures de réflexion, parce que ça va très vite, j'ai basculé dans l'entraînement à ce moment-là. Quoi.
Ouais, c'est toujours difficile de mettre un point final à une carrière. Moi, j'ai arrêté à 25 ans, donc ce n'est pas très comparable avec la carrière que tu as pu avoir. Mais bon, on rêve tous d'avoir une fin à la Diego Dominguez, à la Pierre Rabadan, à la Jérôme Fiol, qui en fait arrive au bout du bout. Diego, c'était à 38 ans. Il finit assis sur le bouclier. Pierrot et Jérôme aussi finissent. Moi, je ne connais que les mecs du Stade français. Mais,
ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est très parisien quand même, toi.
Ouais, c'est très parisien. je ne peux parler que de ce que je connais. Mais il y a très peu de fins, en fait, qui se passent vraiment bien parce que tu as envie d'aller au bout. Là, pour toi, Rémi, il te restait encore une année de contrat possible. Donc voilà, la transition est toujours délicate. Tu parlais d'anonymat. Du jour au lendemain, tu n'as plus, voilà, plus ta vie sociale. Tu as moins de vie sociale, tu as moins le groupe, tu n'as pas les 10 entraînements par semaine, tu as surtout les week-ends où tu ne rentres plus dans les stades qui peuvent être pleins. Donc, il y a tous ces facteurs, il y a tout ça aussi à remettre en ordre et puis revenir dans une vie, entre guillemets, normale, même si la tienne n'est toujours pas encore parce que, et le plus tard possible, mais voilà, parce que tu es encore dans l'adrénaline, mais tu es passé de l'autre côté. Comment tu vis, toi, ce passage? On va en parler avec Arnaud, mais… Ouais. Tu sais, moi, j'ai été entraîné notamment par un entraîneur qui n'avait pas fait le deuil du joueur qu'il avait été et qui nous entraînait inconsciemment comme il aurait voulu être entraîné. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses, parce que tout a été rapide, entre le joueur que tu as été et dire que ben voilà, aujourd'hui, tu as des mecs face à toi, c'est une autre responsabilité, et puis tu as un groupe de 30-35 mecs à gérer. Comment on le vit, ça?
Ouais, c'est ce que tu as dit là sur ton pote, c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé au début où tu mets en place des entraînements que toi t'aimais, que toi tu voulais travailler. Alors après, tu te rends bien compte très rapidement que il faut prioriser les choses et des fois, ben, il faut faire des retours en arrière ou aller dans des domaines où toi tu râlais quand tu jouais, mais qui sont dans l'intérêt de l'équipe. Donc voilà, très vite, tu remets l'intérêt du groupe avant le tien et tu bascules dans un autre domaine qui est l'entraînement. Alors l'année dernière, on était vraiment novices avec Julien et avec le manager Patrick Millet. Cet été, on a Stéphane Prosper qui nous a rejoint. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'expérience qui nous permet de continuer à évoluer, d'apprendre au quotidien et surtout de centrer, de prioriser les entraînements et les choses importantes à mettre en place au sein du groupe.
Rémi, une petite question parce que tu le disais toi-même, tu avais failli prolonger d'un an pour continuer à jouer. Est-ce que tu t'étais projeté vers une éventuelle carrière d'entraîneur ou est-ce que ça t'est tombé dessus le jour où le président Cazot t'a fait la proposition?
Pour t'avouer, je n'avais pas du tout prévu ça de suite. Je m'étais toujours dit que le jour où j'arrête ma carrière, je coupe au moins un an pour me reposer, pour pouvoir profiter de la famille. D'un autre côté, je voulais entraîner, mais plutôt les jeunes, voilà, être dans des centres de formation ou quoi. C'est vrai que je ne m'étais jamais trop dit que j'allais basculer dans un entraînement professionnel. Donc, je t'avoue que quand le président Cazot m'a sollicité, voilà, il y a eu 48 heures où j'étais perdu, où j'ai pas mal échangé avec des amis et des anciens coachs que j'ai eus. Et voilà, donc je me suis dit, et puis je ne savais pas si j'étais fait pour ça. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit au moins je vais être fixé d'entrée, savoir si ça me plaît ou non. Autant l'année dernière ça a été compliqué, autant cette année quand même je me régale.
C'est pas trop difficile quand même de passer du statut de joueur à entraîneur, non pas par rapport à la fonction, mais par rapport à la barrière peut-être que tu te fixes avec tes anciens partenaires qui sont entre guillemets aujourd'hui tes employés, c'est pas tes employés, mais ils sont sous ta responsabilité.
Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors après, on a très vite, mis les choses au clair en disant que nous, voilà, il y a la priorité du terrain. C'est le terrain qui dicte qui joue, qui ne va pas jouer, mais les points à améliorer avec eux et travailler. Et après, il y a l'après-rugby, enfin, la côté du rugby où on est des hommes et ça nous empêche en rien de pouvoir avoir une bonne relation avec les joueurs quand tout est clair et quand tout est mis sur des bonnes bases. Après, forcément, il y a des relations qui changent sur les soirées où, voilà, on fait le début de soirée avec eux et après on les laisse tranquilles. Mais
trop frustrant, voilà. Ça.
Exactement, j'ai donné. Et puis quand je suis revenu à mon 2, moi, il y avait quand même, j'étais le plus vieux, donc il y avait déjà quand même un décalage qui avait avec les joueurs. Donc de mon côté, en tout cas, ça s'est relativement bien passé. Puis on a des super joueurs quand même, il faut les remercier par rapport à ça, qui ont été très intelligents et qui nous ont vraiment aidés la saison dernière.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, Rémi, dans ce nouveau métier d'entraîneur?
De réussir à faire passer ces messages et que tout le monde ait la même vision du jeu. C'est vrai que quand on joue, des fois, on ne comprend pas pourquoi certains joueurs font ça, pourquoi certains coachs raisonnent comme ça. Tu as tendance, quand tu joues, à vite remettre les choses en question, à ne pas comprendre les choses. Et sauf qu'en fait, quand tu passes de l'autre côté, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est l'intérêt de l'équipe et non de l'individu. Donc il faut s'adapter à un plus grand nombre de joueurs et non juste 2-3 joueurs et surtout essayer de rallier tout le monde à la même cause et que tout le monde ait la même image en gros du rugby que l'on veut pratiquer.
Un mot également, tu l'as souligné tout à l'heure, vous êtes deux jeunes entraîneurs avec Julien Tasté, bon, qui avait ce statut de capitaine, hein, quand même déjà à Mondeux depuis de nombreuses années. Est-ce que tu as pris conseil avec d'anciens entraîneurs? On sait que tu es quand même assez proche de Laurent Labitte, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'attaque de l'équipe de France, avec qui tu as travaillé à Castres, avec qui tu as été champion de France à Castres, avec le Racing également. Est-ce que Laurent a été précieux, par exemple, dans, dans ton apprentissage accéléré, parce qu'on voit aujourd'hui, on va en parler après, que Mont-de-Marsan caracole en tête de la Pro D2.
Ouais, complètement. Je les remercie, mais il n'y a pas que Lolo. Alors, j'ai pas eu énormément de duos d'entraîneurs dans ma carrière. J'ai fonctionné avec deux duos, c'était Mias Darricarère et Travers et Labitte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux les remercier parce que ils sont derrière moi. Alors avec Dari, ça a été compliqué parce que j'ai pris sa succession, mais ils sont là pour m'épauler. L'année dernière, quand j'avais des questions, que ce soit Toto Lolo ou Serge Mias, ils étaient toujours là pour m'épauler, pour m'aiguiller. Aujourd'hui encore, j'échange avec tous les quatre et je sais que ils m'ont beaucoup aidé dans ma carrière de joueur. Et aujourd'hui, ces quatre personnes-là m'aident au quotidien encore pour évoluer, pour me donner les réponses aux questions que j'ai.
C'est un joli message de transmission, Raph, toi qui es vachement attaché à cette valeur.
Oui, c'est essentiel. Et puis, de toute façon, Mont-de-Marsan, c'est une histoire centenaire. On a d'ailleurs une bonne pensée pour Olivier Canton, qui est journaliste. On en parlait en off tout à l'heure. Oui, bien sûr que la transmission, elle est essentielle, mais force est de constater que ça ne marche pas partout. Tu vois, j'ai une pensée pendant que je vous écoutais parler, en fait, pour Julien Arias et Lolo Sampere, qui au Stade français sont passés un petit peu comme vous, du jour au lendemain, en fait, à joueur et passé à entraîneur. Avec c'est dans un autre club. Le Stade français n'a pas la même histoire que Mont-de-Marsan. Et tous ces ingrédients de transmission et ce qu'essaye de mettre en place Thomas Lombard, notamment au Stade français, ce qu'a fait le Stade toulousain avec réussite, ce qui est en train de se passer d'ailleurs à Mont-de-Marsan. Donc, tout ce microcosme aussi à Mont-de-Marsan doit aussi aider à cette transition plus compliquée au Stade français, parce qu'on le sait, ça sortait de 3 années de crise où ils sont passés du plus gros budget à la porte de la Pro D2. Heureusement qu'il y a eu le Covid, on en a déjà parlé. Mais là, avec Mont-de-Marsan, la mayonnaise est en train de prendre. Donc, quels sont aujourd'hui les ingrédients la communication avec Julien Tassé, qui était aussi capitaine, cette transmission au sein du club. Est-ce qu'il y a des anciens aussi qui vous permettent aussi d'évoluer en tant que traîneur? Comment ça se passe un peu, ce microcosme qui vous amène à réussir justement sur cette deuxième année en tant qu'entraîneur? Comment ça se passe?
Comme tu dis, c'est vrai qu'on a un peu à notre échelle le modèle toulousain, mais que ce soit Jean-Robert Cazot, Didier Courtade et Thierry Gatineau, donc qui sont présidents des amateurs, après le directeur sportif des amateurs. Aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, des cadets, même minimes, jusqu'au pro, c'est que des anciens joueurs qui vivent Mont-de-Marsan, qui ont le sang montois dans les veines. Donc, au centre de formation, c'est Romain Cabane, avec qui est mon meilleur ami, avec qui j'évolue depuis que j'ai 5 ans et avec qui j'ai joué à Castres. Avec Romain Mareuil, qui a fait la mêlée avec nous, qui est un ancien du club. Et sur toutes les catégories, après, y a Fabrice Lalanne, je pense, qui est connu, que tu dois connaître, et ainsi de suite. Donc, je pense que déjà, niveau communication, niveau idée, on parle tous le même rugby. C'est quand même beaucoup plus facile pour faire des retours, pour savoir le vivier que l'on a, parce qu'on a des beaux jeunes qui montent. Ça fait une osmose. Alors, l'année dernière, ça n'a pas été évident, mais tous nous ont soutenus. On avait tout le temps des messages de soutien. Et on voit que aujourd'hui, grâce à eux, grâce au bon travail qu'ils ont fait, il y a beaucoup de jeunes qui éclos avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la recette de Mont-de-Marsan.
Justement, on va donner quelques chiffres. Hein. 15 matchs depuis le début de saison dans cette Pro D2, 12 victoires pour Mont-de-Marsan, 8 bonus offensifs, c'est-à-dire que les 8 réceptions à la maison se sont conclues par 8 bonus offensifs, plus un bonus défensif. Ça fait 9 au total, invaincu à domicile, on vient de le dire. On a le sentiment qu'il y a une révolution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Rémi? Parce que j'ai regardé un peu l'effectif de la saison dernière, l'effectif de cette année. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Comment on fait pour passer d'une saison où on termine dans le ventre mou, pour ne pas dire très mou, hein, je crois que Monde 2 finit 10e l'an dernier, à ce statut de leader avec 2500 points d'avance sur le second quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais vous êtes loin devant les concurrents directs. On a l'impression que rien ne peut vous arriver en ce moment.
On a quand même que 2 points d'avance sur Yonex et 4 sur Bayonne. Non, il faut rester humble. C'est vrai qu'on a fait un très bon début de saison. Alors, je pense que quand même, beaucoup de monde pense que l'effectif n'a pas énormément évolué, mais on s'est quand même bien renforcé. On a aujourd'hui 2 piliers droits de haut niveau, on a 3 talonneurs. On a Willy Duplessis qui nous fait un bien énorme en 10. Lucas Mensa et Simon Renda qui sont arrivés, qui sont des joueurs de haut niveau. Donc, c'est vrai que les tous les recrues, tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés, plus nos jeunes qui sont Colli, Donardi et Banos, qui l'année dernière étaient un peu en difficulté. Voilà, ça fait quand même presque 10 nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière qui jouent au quotidien et qui amènent surtout vraiment une grosse plus-value. Et voilà, la saison dernière, elle a été très difficile parce qu'on a quand même eu 3 matchs en retard toute la saison. Donc déjà qu'on avait... On avait mal débuté, plus ces 3 matchs en retard, plus on avait quand même un effectif amoindri, avec des joueurs comme Julien Cabanne qui était l'âme du club, qui s'est blessé très vite. Donc ça a été dur, mais on a quand même réussi à gagner 6 matchs à l'extérieur. Donc voilà, je pense que le tableau de l'année dernière, il n'est pas si noir que ça, même si ça a été très compliqué, je te dis pas le contraire, mais je pense que des bases se sont créées, et surtout un groupe s'est créé l'année dernière dans la difficulté. Et cette année, l'apport de toutes les recrues, que ce soit sur le terrain, mais surtout en dehors, elle a créé vraiment une alchimie qui est très forte, qui colle vraiment à l'identité du club. Et aujourd'hui, on parle d'un groupe et on s'appuie sur 44 joueurs. Et c'est ça qui est très fort, où l'année dernière, on s'appuyait sur 25 joueurs.
Tu parlais d'état d'esprit, mais c'est quand même un... Ça détonne en fait avec le rugby pro, tu vois. Tu citais Oyonnax, tu citais Bayonne, qui sont quand même des grosses écuries. Tu as vécu dans des grosses écuries aussi en top 14, même si Castres en 2013 n'était pas annoncé comme champion. Vous battez l'Armada toulonnaise, pardon, comme je le disais dans le portrait. Tu as joué au Racing. L'état d'esprit, il est quand même très, très particulier à Mont-de-Marsan. Et parlons-en, il y a quand même… tu parles de l'à côté. Moi, j'ai 2 trucs à te demander. Comment on va chercher les idées comme la Casa del Papel et comme les Peaky Blinders? Parce que on aurait plus vu ça, tu vois, au Stade Français de l'époque, tu vois, qu'à Mont-de-Marsan. Et en fait, parce que le groupe vit bien, la victoire est là sur le terrain. Or, le casting que tu viens de nous citer, qui est un casting avec des joueurs de très très haut niveau, bien sûr. Mais l'état d'esprit, en fait, il est essentiel. Et tu le sais, le supplément d'âme, il est nécessaire pour aller chercher ce titre en 2013 face à Toulon, au Racing, au Camp Nou, à 14 aussi. Il y a un état d'esprit qui doit se créer aussi, et ce supplément d'âme qui fait gagner aussi des matchs. Vous avez créé quand même un état d'esprit. Et c'est les joueurs qui le créent aussi, certes, sur le terrain et sur la côté. Il faut des mecs un peu débiles aussi. Tu ne vas pas me les citer si tu veux me les citer avec grand plaisir. Mais l'état d'esprit et l'état d'âme, il est nécessaire, voire vital, pour pouvoir gagner et des titres et aussi des matchs importants.
Tout à fait. Ça, c'est... Ça, de par le vécu que l'on a eu, c'est ce qu'on revendique au quotidien, que l'état d'esprit, le groupe est le plus important. Alors, c'est vrai, comme tu dis, qu'on est un club où on n'a pas énormément de moyens. Et on a dans le staff le manager, Patrick Guignet et Stéphane Prosper, qui est revenu, qui sont deux anciens du club. Donc, c'est un peu aussi l'alchimie qu'il y a dans notre staff. Et eux, déjà à leur époque, ils étaient surtout le manager. Il est très, très friand d'état d'esprit et de tous les déguisements et de... Voilà, d'essayer d'enlever la pression aux joueurs sur d'autres thèmes. Et en fait, l'histoire, elle est partie qu'on est parti en stage cet été à la Légion. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On ne sait pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose. À la fin de la semaine, c'était quand même incroyable parce que tous les joueurs, ils étaient par groupe de 3. Enfin, chacun, il y avait 3 équipes qui s'étaient créées, qui représentaient un peu... Les mêmes principes dans les légions, leur grade, enfin, tout ça. Enfin, il y a eu tout un truc qui s'est créé où, à la fin, on n'avait plus de joueurs de rugby du Stade Montois, on avait des légionnaires du Stade Montois. Et voilà, quand on allait dans un point à un autre, on y allait en courant, on y allait en rang, ils chantaient la chanson de la Légion. Voilà, il y a eu des échanges énormes avec les légionnaires. Et en fait, on s'est dit, nous, le staff, à la fin du stage de la Légion, que sur le bloc qui arrive, on va rester sur les batailles de la Légion et on va rester dans toutes les règles de la Légion. Donc voilà, quand les joueurs arrivent en retard, on faisait 50 pompes. Enfin, on avait mis un cadre et puis les joueurs ont dû râler. Puis petit à petit, ils se sont appropriés la chose. Et en fait, on a continué dans ce délire. Et sur le deuxième bloc, on est parti sur la Casa des Papels. Donc on les a attendus. On était tous déguisés en Casa des Papels quand ils sont arrivés sur le premier jour du deuxième bloc. Et donc le manager, du coup, il avait pris les noms des joueurs et en fait ils avaient tous le nom d'un village montois. Donc voilà, donc quand il y avait la composition des équipes, c'était pas par exemple, je me rappelle de Alves, notre pied droit, c'était Amou, qui est un village de chez nous. Voilà, donc chacun avait un village et ça nous permet nous aussi au quotidien d'adapter notre discours. Et on a un groupe de jeunes joueurs, ils se sont identifiés à ça. et ça leur permet d'enlever la pression quelque part. Et en fait, on leur met des objectifs mais à travers la Casa de Papel, voilà, où c'est vrai que alors Bayonne avait cru que c'était sur eux, mais voilà, on parlait de braquer parce que la Casa de Papel, ils braquent la banque, voilà, donc on braquait des stades, que ce soit même à Boni ou quoi. Et voilà, et sur le dernier bloc, là, on n'avait pas trop eu d'idées, donc on a demandé aux joueurs et on est parti sur Peaky Blinders. Donc voilà, le dernier bloc, c'est pour ça qu'on a fait Peaky Blinders. Donc,
est-ce que après tu peux d'ailleurs nous montrer, est-ce que tu peux,
voilà, donc j'ai gardé juste la casquette. Voilà, donc j'avais la casquette. Donc sur chaque compo d'équipe, on était tout le staff, on était habillé en Peaky Blinders. Chaque joueur avait dû se prendre en photo en tenue de Peaky Blinders. Et puis pareil, donc, le manager qui a annoncé l'équipe, il avait la photo du joueur dans cette tenue-là. Et voilà, et donc, et là, on est parti sur un prochain bloc, je pense, va être un prochain thème, je veux dire, qui va être sympa, mais les joueurs ne sont pas encore au courant. Donc,
on aura la surprise. Tu vois ce grain de folie qui va en plus.
Putain, mais comme tu dis, quoi. C'est vrai que moi, je n'avais pas connu ça dans les clubs, que j'ai connus, comme tu dis, où c'est plus huppé, où tu peux te permettre un peu moins de faire ces choses-là. Mais c'est vrai que voilà, même à nous, ça nous dégage du quotidien et ça rend le quotidien. Tu vis des bons moments. Et voilà, et c'est vrai que la chanson d'un Casa de Papel, je pense que dans 5 ans, 10 ans, quand les joueurs l'entendront, ben, ils auront ce flash et ils se rappelleront des moments qu'ils ont partagés ensemble.
Justement, Rémi, raconte-nous un peu quelle a été la réaction de vos joueurs lorsqu'ils ont débarqué donc, au premier jour du deuxième bloc et qu'ils vous ont vu déguisé en braqueur de banque version Casa de Papel. Raconte-nous un peu.
Ouais, ils étaient tous assis, on est tous rentrés, voilà, on avait... le manager avait repris les phrases du professeur dans la Casa de Papel ou quoi, quand on a présenté le bloc, mais ils étaient assis. Bon, je pense que maintenant, plus rien ne les surprend. Voilà, on joue
le
jeu.
Ils vous ont pris pour des dingues, non ?
Ouais, bah, je pense. Hein, je pense. Après, le fait que nous, on joue le truc à fond, mais eux, ça les pousse à les faire. Alors après, il y a les résultats qui suivent. Donc forcément, c'est plus facile. Mais tu vois, à Bayonne, quand les hors-groupes ont fait la surprise, en fait, au 23 de Bayonne d'arriver déguisé en Casa de Papel, je pense que ça a touché aussi les joueurs du groupe et ça prouve qu'il y a un vrai état d'esprit et que même les mecs qui jouent pas, ils sont à fond derrière l'équipe et à fond dans ce jeu de rôle là donc voilà, donc ils sont fous mais nous aussi je pense un peu.
Est-ce que c'est ça qui fait gagner les matchs? Parce que Raph, tu as connu ça aussi à l'époque du Stade Français où il y avait une équipe un peu branque, hein, on va pas se mentir. Est-ce que c'est ce supplément d'âme qui permet justement de... On parle souvent qu'ils font un match winner en parlant d'un joueur dans une équipe, mais est-ce que ce n'est pas cet état d'esprit qui fait basculer les rencontres finalement? Question pour tous les deux, hein, d'ailleurs.
Non, pour l'avoir vécu au sein du Stade Français, j'ai été pro de 99 à 2005, il n'y a pas une année où tu as 10 anecdotes complètement rocambolesques, comme on perd, tu vois, on perd en 99-2000, tu perds, tu es aux portes des play-downs, on se fait une bringue énorme dans un rad, les réchelles sont bien intégrées, tout le monde est bien intégré, Domi qui se lève un peu en colère 4h du mat au milieu du bar et qui dit « on sera champion de France en autogestion en fin d'année, on l'a été ». Ça, c'est un exemple. On perd un match contre Bourgoin en 2003, on décide d'aller faire une semaine d'oxygénation au ski, on est champion de France contre Toulouse, pareil en 2004. Donc, il y a toujours ces moments où t'avais un chafardon qui je te dis, qui buvait le Saint-Ol et qui se foutait la menthe dans le nez. C'est con, c'est un exemple, mais c'était le quotidien. C'était des croche-pattes à l'entraînement, c'était, je l'ai déjà raconté, ça c'est Christophe Ony qui repart des Princes en fait avec 10 couvercles de yaourt collés dans le dos et qui s'entraîne toute l'après-midi avec les couvercles de yaourt dans le dos. C'est que des petites anecdotes qui t'amènent en fait à bien vivre parce que sinon tu te fais chier. T'imagines que tu fais 10 entraînements par semaine et tu vas au boulot, quoi, quand les mecs à la fin du match ils disent on va se remettre au boulot pour la semaine prochaine, mais tu sens un peu une petite lassitude. Si t'as pas ces petits moments particuliers qui te gardent un pied en adolescence et qui te rappellent justement que ça reste un jeu, même si c'est certains boulots, même si c'est contraignant et que les mecs méritent leur salaire, bien sûr. Mais n'oublions pas que ça reste un jeu. Et c'est pour ça que ces anecdotes, elles te régalent sur les réseaux sociaux parce que tu as l'impression, quand tu es ancien, tu as l'impression d'appartenir au groupe et tu te dis, putain, tu replonges en adolescence. Et je suis persuadé que c'est le genre de truc qui te fait gagner des matchs et qui te fait gagner aussi des titres. Moi, pour avoir été spectateur de ça pendant 6 ans, même si j'ai loupé les finales, putain, t'avais, et c'est ce qui manque après à la fin. C'est pas obligatoirement le public, c'est la vie sociale et toutes ces petites conneries qui au quotidien en fait te gardent un pied dans l'adolescence et te font gagner des titres. Moi, j'en suis persuadé. Je sais pas ce que t'en penses, Rémi, mais
ouais, non, je partage tout à fait ton point de vue. C'est vrai que chaque titre, il y a toujours une histoire derrière, des anecdotes, du bon vivre, parce qu'on passe tellement de temps ensemble, que ce soit staff ou joueur, que si au quotidien tu te fais chier, que tu vas reculant à l'entraînement, ça peut pas fonctionner. Donc Le but, c'est que les mecs ils viennent, qu'ils aient envie, qu'ils aient la banane. Que, ben, comme tu dis, nous, on est vachement sur le plaisir. C'est vrai que c'est notre métier, mais c'est avant tout un jeu et un plaisir. On a la chance de vivre de ces moments-là. Donc, en plus, on sort de 2 ans de Covid où c'était compliqué. Donc, si aujourd'hui, tu n'as ben, pas la banane, que tu ne prends pas du plaisir dans ce que tu fais, c'est dur d'aller loin. Alors après, je ne dis pas que c'est la qualif et le titre assuré, mais en tout cas, ça permet de créer des belles choses. Il y a une solidarité du coup qui se met en place et les mecs, en tout cas, ils veulent se battre les uns pour les autres. Et ça fait que, en tout cas, tu, je ne sais pas si ça va au bout parce qu'il y a beaucoup de choses après qui rentrent en compte, mais ça te permet quand même d'avoir une grosse, grosse base et de rêver plus grand, en tout cas.
Et pour conclure sur l'importance aussi de ce partage avec le public, parce que le public, là, il s'identifie à une équipe de branque, une équipe qui gagne en plus. Donc, tu as la maîtrise et le lâcher-prise, quoi. Tu te dis, putain, en fait, c'est possible, quoi. C'est comme le match contre les Blacks, en fait. Tu vois ce supplément d'âme qu'il y a sur le terrain. Putain, le lundi matin, à la machine à café, tu te dis, putain, on a passé un bon moment ce week-end. Quand tu vas à Mont-de-Marsan et quand tu les vois jouer, le lundi, je veux dire, tu es supporter de Mont-de-Marsan, tu es content d'aller au bureau, tu es content d'aller au boulot, parce que, putain, tu as passé un bon week-end. En plus, tu t'es marré. En plus, ça gagne. Donc, tous les éléments sont réunis aussi pour que l'histoire soit belle. En tout cas, on vous le souhaite d'ici à la fin de l'année. Ouais.
J'allais y venir, Rémi, parce que parallèlement à l'effet bénéfique sportif, il y a l'effet bénéfique sur l'image. Bon, Mont-de-Marsan a toujours joui d'une belle image hein, dans le rugby français. On parle souvent d'un bastion historique, du jeu à la Montoise. On ne va pas remonter jusqu'au frère Boniface. Mais on a le sentiment qu'en plus des bons résultats sportifs, l'image de Mont-2 aujourd'hui, elle est exceptionnelle à travers ces exemples-là. Alors oui, il y a eu la pseudo-polémique suite à ces images où on voit Julien Testé essayer de rentrer sur le terrain à Bayonne. Mais au-delà de cette polémique, pour le reste, on a le sentiment qu'effectivement, cette équipe, elle dégage une sympathie incroyable et bien au-delà des frontières des Landes.
Ben, on l'espère. Après, nous, on a envie de montrer une belle image avant tout. C'est le jeu qui dicte tout et les ingrédients que mettent les joueurs sur le terrain. Alors, je pense que sur cette première partie de saison, ils ont mis tout ce qu'il fallait. On a produit du jeu. Ils ont pris du plaisir. Ils en ont surtout donné. C'est ce qu'on leur dit au quotidien. Qu'eux se régalent, mais qu'avant tout, ils donnent du plaisir aux gens qui les regardent. Et c'est vrai que ben, quand on voit tous les joueurs que l'on a qui sont mis en avant, on est fiers pour eux. Tout le club est fier pour eux. Ça donne vraiment une belle image parce que ça faisait un petit moment que les résultats à Mont-de-Marsan étaient un peu en dents de scie, qu'avec les supporters, voilà, c'était moins l'amour qu'il peut y avoir en ce moment. Et les gens reviennent au stade. Les gens se régalent quand ils nous voient jouer. Donc, Il faut continuer sur cette voie-là, en tout cas.
La rumeur dit même que des Dacquois vont jusqu'à Mont-de-Marsan pour voir le stade Montois jouer. Mais ce n'est qu'une rumeur.
Ils sont les bienvenus.
Hein. Ils sont les bienvenus. On va parler un peu aussi spécifiquement de ton rôle en tant qu'entraîneur. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu aurais, dans un premier temps, tu aurais aimé entraîner des jeunes. Mais aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup de jeunes. On va parler de Léo Colli, dont on dit qu'il pourrait être une future pépite du rugby français. Rémi, toi qui as une belle carrière internationale derrière toi, tu lui vois un avenir international à Léo Colli?
International, je ne sais pas, parce que, en tout cas, je le souhaite, mais en neuf, il y a énormément de concurrence quand même. Quand tu vois Toto, le petit Legarec, Couillou, Serein, enfin, il y a un paquet de très bons neufs en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Léo a énormément, énormément de qualité. C'est un gros bosseur. Il aime le rugby. Surtout, ça, il faut le signaler. Il aime le rugby. Il regarde tous les matchs. Il se pose les questions. Il veut savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que c'est un peu
à l'image d'un Toto Dupont. Hein.
Exactement. C'est un peu le. Je pense que ça s'était perdu un peu ça. Et Léo, il est vraiment dans ça. Il est dans l'écoute. Il veut sans cesse progresser. Et je lui souhaite en tout cas qu'il aille le plus loin possible et que, en tout cas, il a les qualités pour faire une belle carrière. Après, international, ça, il y a autre chose qui rentre en jeu, mais il a tout pour faire une belle carrière.
Tu dis que ça s'était perdu. Tu fais partie de cette génération, justement, qui, dans les années 2010, on va dire, justement, tu as joué aussi en équipe de France. C'est quoi qui s'est perdu un petit peu? Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est le manque de transmission? Est-ce que tu as joué en équipe de France dans les années aussi où ça quand même un peu galéré aussi, c'est quoi? C'est que l'image avait été ternie, l'image du rugby a été ternie, c'est les résultats de l'équipe de France. Il y a un tout, parce que là, on a une génération qui est absolument géniale, que ce soit avec ton nom de mêlée, on le voit avec les Dupont, les Ntamack, enfin, il y a toute cette génération qui explose, deux fois championne du monde. Ça s'était perdu, fut un temps, toi qui l'as vécu de l'intérieur, en plus à Castres, au Racing, qui sont des grosses écuries, en équipe de France aussi, au milieu d'un passage compliqué. Comment tu l'expliques, ce passage à vide?
Mais c'est pas. Enfin, moi, franchement, quand j'ai vécu les années, que ce soit au Racing ou à Castres, on avait une ambiance exceptionnelle. Hein. Ça, je veux surtout pas. Je veux surtout pas dire que c'est mieux maintenant qu'avant, parce que franchement, on s'est régalé. Mais c'est plus dans les jeunes qui arrivaient, ils étaient moins à regarder tous les matchs de rugby. C'était un peu aussi la bascule du professionnalisme où les joueurs pensaient peut-être plus à eux et cherchaient pas à comprendre tous les aspects du rugby. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, comme tu dis, là, tout ce que tu as cité, ils aiment le rugby, ils font du rugby parce qu'ils l'aiment et non pour ce qu'ils représentent. Et je pense que quelque part, sur les 10 dernières années, ça s'est un peu perdu. Et le fait que l'équipe de France regagne, que les jeunes soient deux fois champions du monde, je pense que la Fédé a quand même refait un gros travail dans notre formation. Je pense que voilà, aujourd'hui, les joueurs aspirent à aller en équipe de France. Ils ont envie de reporter ce maillot. Le maillot de l'équipe de France, aujourd'hui, il est re-synonyme de victoire. Alors que c'est vrai que quand j'étais, c'était compliqué. On ne gagnait pas beaucoup de matchs. Et voilà, tout ça fait que les jeunes ont envie de jouer. Et que si tu veux jouer, il faut que tu te remettes à fond dans le rugby. Parce que la concurrence est de plus en plus forte. Et voilà, je pense que ça tire en tout cas tous les jeunes vers le haut. Et quand on voit le nombre de jeunes et de talents qui arrivent, franchement, c'est fou. On regorge de talents en France. C'est incroyable.
Alors, on va parler un peu de Mont-de-Marsan et des performances et un peu de l'avenir. Alors, Rémi, on sait qu'en bon entraîneur que tu es, tu vas prendre les matchs les uns après les autres. Hein. On sait que c'est la formule classique qu'on nous sort à chaque fois. Mais allez, on se projette, on imagine. Le top 14 tend les bras à Mont-de-Marsan. On est au mois de mai 2022. Qu'est-ce que le club peut espérer? Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est… pas un miracle, parce que la force du travail, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde les budgets, Mont-de-Marsan, c'est 6,8 millions d'euros, soit le 11e ou 12e budget de Pro D2, quand même, faut le rappeler. Est-ce qu'un club comme Mont-de-Marsan, finalement, on peut se poser la question, elle est un peu provocatrice, mais est-ce que Mont-de-Marsan a vocation à aller jouer en top 14? Et est-ce que ce club aura les moyens d'installer son modèle au plus haut niveau du rugby français?
Donc là, je vais répondre si on est au mois de mai et qu'on monte.
Exactement. Attention, on ne prend pas les matchs les uns après les autres.
Voilà, exactement. Parce que la saison est encore longue. Tu sais commencer. C'est pas de.
Bien
pas
sûr,
de,
bien sûr.
La langue de bois. Mais déjà, si jamais on a la chance de monter, déjà, la première des choses, c'est de. J'espère qu'on arrivera à garder tous nos jeunes un an de plus pour qu'ils découvrent le top 14 avec nous. Parce que c'est vrai que si on monte et qu'on perd nos meilleurs éléments, déjà, bon, on se tirerait une balle dans le pied. Alors bon, mais ça, j'espère que nos jeunes resteront avec nous un an de plus. Mais après, te dire qu'on va rivaliser, ça sera très compliqué. Il faut pas se voiler la face. Quand on voit déjà aujourd'hui Perpignan et Biarritz qui ont des budgets qui sont autres que nous. Ils ont presque trois fois plus que nous, je pense, en top 14. Il faudrait déjà, si on monte, il faut qu'on se renforce dans toutes les lignes. Mais il faudra qu'on ait le budget, qu'on fera un recrutement quand même très tardif. Donc je pense que si on monte, ce sera dur. Après, cependant, ça sera une bonne chose pour le club, pour la visibilité, pour nos jeunes, pour l'aspect économique, pour nos structures. Forcément, qu'en tout cas, le club, s'il doit monter, il montera les yeux fermés. Par contre, on sait qu'on vivra une année assez compliquée d'un point de vue sportif, mais qui sera bénéfique après pour la suite du club et pour la pérennisation du club.
Tu parles justement, Rémi, de cette contrainte qui est pour un club qui monte en top 14 de connaître son avenir finalement assez tard. On sait qu'il y a une réflexion en ce moment qui est menée par les présidents de clubs de Pro D2 pour éventuellement revenir à l'ancienne formule, à savoir que le premier de la phase régulière accède directement au top 14 et est déclaré champion de France de Pro D2. Est-ce que tu fais partie de ceux qui justement militent pour ce retour à cette ancienne formule? Parce qu'on le voit, hein, le Racing est monté avec cette formule et a réussi à pérenniser son modèle en top 14. Idem pour le Loup. Est-ce que finalement, ce n'est pas un modèle plus vertueux pour les clubs et qui permet de mieux résister à une montée en top 14?
Ouais, alors moi, je t'avoue que j'ai découvert cette nouvelle proposition hier. Hein, comme tout le monde, je n'étais pas au courant. Après, c'est sûr que pour un club qui domine et qui est premier du championnat, s'il peut anticiper sa montée quand même quelques mois à l'avance, c'est quand même plus facile et il prépare sa, son avenir un peu plus sereinement. Parce que ben là, autant des clubs comme Oyonnax et Bayonne, par exemple, par rapport à nous, qui ont des moyens autres, ils peuvent quand même anticiper et se permettre de recruter des joueurs avec des gros salaires. Nous, on ne peut pas. Déjà, on peut pas, on n'a pas la prétention de se projeter aujourd'hui en top 14. Mais c'est sûr que si nous, ça doit nous arriver et qu'on doit monter, ben on devra faire un recrutement au mois de mai avec les joueurs qui resteront sur le marché.
Après, je pense qu'il y a, vu l'état d'esprit, moi, je pousse tous les joueurs qui nous écoutent et qui m'écoutent, hein, parce qu'on le voit justement, le plus gros budget aujourd'hui du top 14, c'est le Stade français. Et bon, après, ils ont eu pas mal de... On en a parlé justement la semaine dernière sur la masse salariale et tout ça, et le fait de pouvoir se reconstruire après la catastrophe qu'il y a eu avec Meyer. Mais à choisir aujourd'hui, et pourtant c'est mon club de cœur, le Stade français. Mais en termes d'histoire et en termes de résultats, bordel, allez jouer à Mont-de-Marsan si ça monte. Hein. Moi, je vous le dis, les gars, moi j'y vais les deux pieds, les deux mains, je suis encore joueur. Je me dis, alors oui, il y a toujours l'aspect argent. Mais après, il y a aussi l'histoire que tu peux vivre aussi avec des clubs. Et voilà, si ça peut s'équilibrer, tu vois, avec un petit salaire sympa, mais vivre une aventure extraordinaire dans la continuité, je vous le souhaite de monter. Hein. Allez, en plus, c'est quand même plutôt une très très belle région, hein, non?
Ah, la région, c'est pas mal. On a une belle région. À la fin.
Et sur le plan structurel, Rémi, dis-moi, toi qui as connu quand même des centres d'entraînement comme Castres ou le Racing, qui ont deux clubs avec deux centres d'entraînement assez, assez exceptionnels, sur le plan des structures, est-ce que Mont-de-Marsan va pouvoir, même si ce n'est pas cette année, mais dans les années à venir, se structurer pour pouvoir offrir un cadre de travail en relation avec le niveau du top 14?
Alors ça, c'est un peu le débat actuel à Mont-de-Marsan. Alors, le président quand même a très bien fait évoluer le club avec la nouvelle tribune depuis 4-5 ans maintenant où tout ce qui est salle kiné, salle de vie, la muscu, ça n'a rien à envier à un club de haut niveau. Ce qui fait débat et qui est problématique vraiment aujourd'hui, c'est la pelouse. C'est la pelouse de notre stade. Je sais que le club aimerait qu'il y ait un synthétique pour que on puisse se baser et qu'on s'entraîne tous les jours sur Bonny. Le jour où il y aura ça, le club, bon, alors oui, ça ne sera pas les installations de Toulon, du Racing, le confort qu'il y a et tout ça, mais il y aura vraiment de belles structures et le club, niveau structurel, peut fonctionner en top 14, oui. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est ce pelouse là qui fait débat.
Oui, parce que sur la salle de muscu, sur le centre de formation, enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pense que beaucoup de clubs de Pro D2 n'ont plus grand-chose à envier aux clubs de Top 14. Après, oui, on n'est pas dans les infrastructures. Allez, bon, alors, après, moi, je vais parler de mon époque aussi. Hein. Nous, on allait s'entraîner dans le bois de Meudon et on était sur l'ancienne piste de Jean-Bouin pour faire la vitesse. Il y avait une salle de muscu, ça s'appelait le Kosovo. On était sous une tribune dégueulasse. Ça ne nous a pas empêché de gagner des trucs. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il faut mettre les mecs dans le meilleur confort, le plus optimal. Mais bon, je pense qu'à Mont-de-Marsan, ça n'a pas grand-chose à envier justement à d'autres.
Ouais, mais on a vu sur la durée, Raph, que le Stade français a été rattrapé aussi en partie à cause de ça.
Oui, certes, mais après, oui, comme toute évolution. Mais bon, quand tu arrives, si ça monte en top 14 l'année prochaine, tu as le temps de te structurer avec le temps. Le mec, il ne va pas venir te chier dans les lattes parce qu'il n'a pas sa bouteille d'eau à l'entraînement. Oui, il y a les poids, il y a tout ce qu'il faut.
Non, mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Rémi par rapport à ça parce que c'est vrai que la qualité quand même d'un centre d'entraînement, ça joue au quotidien sur. Au-delà de l'état d'esprit, évidemment qu'on peut avoir toutes les thématiques que vous mettez en place et on trouve ça évidemment formidable, mais j'imagine que lorsque ce que Raph dit, où le matin même, ils ne savaient pas où ils allaient s'entraîner l'après-midi à l'époque du Stade français, ils recevaient des SMS, changement de lieu d'entraînement, tout ça, ouais. C'est quand même très inconfortable, non, aujourd'hui
c'est ce que nous, on vit un peu actuellement. Voilà, c'est vrai qu'on a nos bureaux, la salle de vie muscu-kiné qui sont à Boniface. Et depuis le début de l'année, on s'entraîne deux fois semaine sur Bonny. Sauf que là, avec les intempéries et le temps, on ne peut plus s'y entraîner. Ça fait qu'on bascule sur la plaine des Jeux. Voilà, c'est pas non plus comme Raph a connu à Paris où il faut une demi-heure ou trois quarts d'heure pour aller d'un point A à un point B. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on découvre presque le matin même. Mais le stade, on ne peut pas s'entraîner sur le stade, donc il faut aller à la plaine. Et puis on arrive à la plaine, le terrain, il y a toutes les équipes qui s'entraînent dessus. Donc on peut provoquer des blessures bêtement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si le Stade Montois veut évoluer et continuer à grandir, c'est avoir un synthétique parce que ça résoudrait énormément de problèmes et quand même au quotidien, que ce soit pour le staff ou pour les joueurs, c'est quand même important d'avoir des structures de qualité.
Donc évidemment, on passe le bonjour à monsieur le maire de Mont-de-Marsan s'il nous écoute. Hein. Il sera content. Message, Le message est passé, Rémi. Il y a un point qu'on voulait évoquer avec toi aussi, Rémi. On en a parlé avec Raphaël. C'est qu'aujourd'hui, vous suscitez quelques convoitises, quelques jalousies. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce que le risque aujourd'hui pour Mont-de-Marsan, c'est pas de se faire piller à la fin de la saison? On parle de transfert, on parle de clubs de top 14 qui lorgnent sur un certain nombre de joueurs de Mont-de-Marsan. Est-ce que le risque, il n'est pas là aujourd'hui? Parce qu'économiquement, effectivement, tu l'as dit, tu l'as souligné, en rapport avec le budget de Mont-de-Marsan qui est de 6,8 millions d'euros, c'est difficile de rivaliser et d'aligner des salaires qui sont proposés dans les écuries de top 14 pour les joueurs.
Ouais, c'est sûr. Après, c'est aussi quelque part le modèle économique du club de former des jeunes et après, mais qui jouent avec nous et qui explosent et que des grands clubs aillent les chercher et qu'il y ait des transferts. Après, c'est sûr que nous, coach, forcément qu'on a envie de les garder le plus longtemps possible parce que c'est des joueurs de qualité qui sont tout au début de leur carrière. Mais voilà, ça, on le sait quand on débute la saison, on sait que. Alors, on a des joueurs avec des très très hauts potentiels et qui peuvent être amenés demain à aller jouer dans des grosses écuries. Et puis, nous, on leur souhaite que ça. On est à fond derrière eux. Et le but, nous, c'est qu'ils aillent le plus loin possible et le plus haut possible, mais qu'on en profite le plus longtemps possible aussi.
Est-ce qu'il y a une forme d'injustice, à votre avis? Question pour tous les deux. Une forme d'injustice, finalement, quelque part, à gagner comme ça tout au long d'une saison et puis à voir partir ces joueurs?
Moi, j'ai une pensée pour Massy. Massy, c'est l'exemple du centre de formation qui est le meilleur aujourd'hui en France et depuis 20 ans dans le rugby pro, hein, qui chaque année fait des espèces d'allers-retours entre la Pro D2 et la nation. Enfin, je trouve ça juste hallucinant. En plus, on le sait, hein, ça va au Stade Français, ça va au Racing, ça va à Toulon, ça va ailleurs.
Ça va partout. Hein.
Mais parce que le rugby
alimente tout le top 14.
Le rugby fait rêver, mais bon, c'est sociétal. Hein, je veux dire, il y a un moment où quand ça fait briller, quand ça brille et quand c'est plus tu t'approches du soleil, plus c'est chouette et plus c'est beau. Mais l'histoire qu'a Mont-de-Marsan, mais comme d'autres clubs, c'est, il faut se baser sur l'histoire. Il faut peut-être revenir à pas une norme, mais voilà, juste dire que l'histoire, elle est belle aussi et qu'il y a des belles histoires à vivre aussi dans ce qu'on appelle les petits clubs. Parce que oui, tu gagneras peut-être moins. Mais l'aventure sera tout aussi belle, voire plus belle. Et puis après, comme le dit Rémi, tu peux aller exploser ailleurs, mais prendre le temps justement aussi de te former à la Pro D2, au Top 14, et puis partir après. Mais oui, comme tu dis, l'exemple, c'est Massy. Massy, pour moi, c'est hallucinant ce qui peut arriver. C'est pas dégueulasse, mais quand tu vois que... Puis, je vais dire, la rétribution, elle n'est pas énorme par rapport au gros travail qui a été fait pendant 5-6 ans de formation sur les joueurs. Donc oui, il y a deux poids, deux mesures, hein.
Rien à ajouter, Rémi, pardon, par rapport à ça.
Non, il a raison, Raph. Là, non, mais c'est... Après, je te dis, c'est après, si d'autres joueurs éclos ou si d'autres jeunes viennent chez nous aussi, c'est qu'on leur serve de vitrine pour exposer au plus haut niveau. Quelque part, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est trouver le bon équilibre, en tout cas, qu'ils ne partent pas tous en même temps. Et que, ouais. Que comme je t'ai dit, qu'on en profite au maximum. Mais après, je pense que le club sera fier le jour où ces joueurs seront dans des clubs très huppés et qui porteront haut et fort les couleurs de Mont-de-Marsan aussi.
Rémi, dans le même registre, lorsqu'un entraîneur fait du bon boulot avec peu de moyens, souvent il est courtisé. Tu me vois venir là.
Pas du tout. C'est,
est-ce que c'est ton cas aussi? Parce que est-ce que tu aspires peut-être dans les années à venir à pouvoir travailler dans un club plus huppé, dans un club de top 14? Tu as embrassé aujourd'hui une carrière d'entraîneur, même si initialement tu disais que tu voulais plutôt travailler avec des jeunes. Mais quand on met un peu le pied dans l'engrenage, j'imagine qu'on y prend goût. Hein. C'est comme une drogue. Hein. Il y a une forme d'addiction à cette pression, à ce quotidien fait d'adrénaline. Est-ce que tu te projettes sur les années à venir? Est-ce que l'ambition est d'aller tutoyer les sommets pour entraîner une équipe qui serait susceptible d'évoluer en top 14?
Bah franchement, ouais, je vais pas te mentir. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours, donc je suis tout au début de ma formation d'entraîneur. Donc je me fixe pas de limites. Là, je suis en fin de contrat là à Mont-de-Marsan, donc forcément qu'il y a des discussions. Mais non, je j'ai pas envie de me mettre d'objectif. Je verrai où le rugby m'amène, comme j'ai fait dans ma carrière. J'ai pris le temps en passant par la Pro D2, et ça ne m'a pas empêché d'aller très très haut. Donc, J'apprends au maximum, j'échange au maximum, je veux me nourrir au maximum pour que si un jour, forcément, le top 14 fait rêver en tant que joueur et entraîneur, que ben, le jour, si je dois aller, et si j'ai la chance d'aller en top 14, qu'en tout cas, j'ai les armes pour être prêt et pour être surtout performant. Parce que quand on se lance quelque part, on a envie d'être compétent et d'amener les joueurs le plus loin possible.
Et tu le soulignes à juste titre, la Pro D2 est un formidable laboratoire, on le dit souvent pour les joueurs, mais même pour les entraîneurs, faire ses armes en Pro D2, qui est un championnat très dur, un championnat marathon, c'est quelque chose d'enrichissant pour un entraîneur, j'imagine.
Ouais, c'est très enrichissant parce qu'on a, sans les dévaloriser ou quoi, mais on a des joueurs qui ont un autre niveau que les joueurs au top 14 ou en top 14. Des fois, c'est plus compliqué, je pense, à manager et à gérer les égos. Par contre, il y a une qualité déjà technique et une intelligence de jeu qui est autre. Et voilà, donc c'est énormément de stratégie. Alors que je pense que nous, en plus, on a beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs qui viennent de différents horizons, qui n'ont pas forcément eu la même formation que les joueurs top 14. Donc c'est à nous de les développer. Je pense qu'en Pro D2, on est surtout encore sur du développement de joueurs. Que voilà, en top 14, tu arrives avec des joueurs aguerris et il faut arriver à surtout à les faire jouer ensemble. Alors qu'en Pro D2, je pense qu'il y a plus de travail sur ce point de. Sur cet aspect-là.
Juste pour conclure, parce qu'on a déjà été très long, sans trahir de secret, on se projette encore. On se projette. Alors, on n'est pas au mois de mai 2022.
On est en 2038.
Éventuellement. Alors, ouais. Mais imaginons demain Laurent Labitte, qui est entraîneur de l'équipe de France de rugby, décide de devenir manager d'un club de top 14. Et si Laurent veut travailler avec des jeunes entraîneurs, on peut imaginer la reconstitution du duo Thalès Labitte.
Bon, on peut tout imaginer. Hein. Ouais. On peut tout imaginer. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, il est pour un moment en équipe de France, donc c'est pas pour demain. Mais oui, bien sûr.
Travailler avec Laurent Labitte, c'est quelque chose qui pourrait te séduire, en tout cas.
Ouais, bien sûr. Ben, on voit l'expérience qu'il a aujourd'hui. Il est à très haut niveau, donc oui, être les côtoyer, surtout être chapeauté par que ce soit lui, même Toto. Voilà, c'est quand même des grands entraîneurs, des grands managers surtout, et pouvoir évoluer à leur côté, pourquoi pas. C'est sûr qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
Raph, on arrive à la fin de cette émission. On a toujours l'habitude de conclure ensemble. Ton sentiment sur l'avenir de Mont-de-Marsan, sur l'avenir de Rémi Thalès, sur ce qu'on vient d'évoquer.
Non, mais comme je le disais dans le portrait, pour moi, c'est mystérieux et taiseux. Rémi, on se connaît peu, mais j'ai pu te voir évoluer. Donc, content de te savoir là-bas. Prends le temps, parce qu'Arnaud aimerait justement que déjà demain, tu sois… mais prends le temps. Et moi, moi, ce que j'ai envie de voir, tu vois, j'ai envie que les jours passent rapidement juste pour voir la prochaine thématique de Mont-de-Marsan.
Et puis, ah oui.
Continuer à nous régaler, parce que franchement, c'est… OK, il y a l'aspect stratégico-technique. Et comme je l'ai toujours dit dans Poulain Raffut, personnellement, ça n'a jamais été mon fort. Mais sur tous les à côté, moi, c'est ce qui me régale. Et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir dans l'émission. On en sait un petit peu plus sur l'homme que tu es, sur Mont-de-Marsan avec cette culture. Donc, ravi du moment qu'on a partagé ensemble et la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire.
Ouais. Bah, plaisir partagé, en tout cas. C'était un bon moment d'échange.
Ah, bah, merci, messieurs. Poulain Raffut, c'est fini. Pour cette semaine, c'est fini pour cette année également. On se retrouvera en 2022.
Non, parce que tu n'es pas là. Toi, tu pars en vacances la semaine prochaine. Mais moi, je vais faire normalement une dernière émission fin d'année. Normalement, on va en parler avec Seb et avec Adrien justement qui a la technique aujourd'hui. Normalement, il y a encore une émission la semaine prochaine.
Eh ben, vous me la prenez.
C'est bien. Il y en a qui sont bien vus, quoi. Il y en a qui sont bien vus qui partent en vacances, quoi.
C'est ça, exactement.
Putain, bien non.
Et il y en a qui ont le Covid et qui sont bloqués chez eux. Ça, c'est moi, aujourd'hui. Voilà.
Ah, tu l'as ?
Ouais, je l'ai. Ouais. Voilà. Donc, à toutes celles et ceux qui traversent ces moments-là difficiles pendant les fêtes, on va leur souhaiter de très, très bonnes fêtes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Arnaud, et nous, on se retrouvera en janvier. Rémi, en tout cas, de très bonnes fêtes à toi, à Mont-de-Marsan. Et puis, rendez-vous pour la prochaine anecdote qui sera, à mon avis, très croustillante.
Vivement le prochain blog de Mont-de-Marsan.
Absolument.
J'espère. Merci à vous et bonne fête.
Merci, à très bientôt sur Poulain Raffut.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.